Alors ce soir, on vous propose de continuer. En fait, la dernière fois, on avait eu le passage de Jean 17, des versets 1 à 26. Et ce soir, les GIA, on vous propose de continuer à explorer ce passage. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage, mais cette fois-ci, on va essayer vraiment de l'aborder d'un point de vue vraiment pratique, vraiment sous son aspect pratique, la mise en pratique, en fait, dans nos vies. C'est vrai que la dernière fois, on avait passé beaucoup de temps à analyser, décortiquer et expliquer un peu ce que voulait dire chaque mot de Jésus. Et là, on va essayer vraiment d'en tirer quelque chose de bénéfique pour nous. Alors, je sais que d'habitude, c'est un petit peu à Hollywood et dans les films qu'on voit Rambo 1, Rambo 2, Superman 1, Superman 2, le retour. Si vous voulez, on peut dire c'est un peu ça, la prière sacerdotale de le retour, toujours sur la prière de Jésus. Et alors, bien sûr, il y a certaines choses que nous allons un petit peu répéter, qu'on avait déjà vu la dernière fois. Pour certains, ça sera un rappel. Pour d'autres, peut-être, ça sera une découverte. Et bien sûr, on va essayer un petit peu d'explorer un peu plus, d'approfondir un petit peu le texte. Alors, tout d'abord, je vous propose de regarder, de se rappeler le contexte. C'est toujours important, quand on regarde un texte, de voir comment il s'insère, en fait, dans l'ensemble. Et on peut regarder déjà au chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16. Je vais vous faire un petit résumé de ce qui se fait avant. Chapitre 14, donc Jésus est en présence des disciples et il réconforte ses apôtres. On le voit au verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi. » Verset 27, « Je vous laisse ma paix. » Ensuite, on voit aussi qu'il fait des annonces assez importantes sur la prière. C'est la première fois que Jésus leur dit qu'ils peuvent prier Dieu en son nom, demander en son nom les choses. Avant, il leur avait dit, vous vous adressez à notre Père, mais là, il leur dit, vous pouvez demander des choses à Dieu en mon nom. Et ensuite, il leur parle du Saint-Esprit. Donc, on le voit au verset 13, demandez en mon nom, verset 16, il vous le donnera un autre consolateur, esprit de vérité. Ensuite, au chapitre 15, Jésus donne les dernières instructions à ses disciples. Verset 4, demeurez en moi. Verset 10, gardez mes commandements. Verset 12, aimez-vous les uns les autres. Donc des recommandations aussi sur leur relation entre eux. Ensuite, il leur donne des avertissements sur le monde. Donc, il leur dit déjà comment le monde va réagir par rapport à eux. Il leur dit, verset 18, « Le monde vous a haï, sachez qu'il m'a haï avant. » Verset 20, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Donc Jésus leur annonce déjà la persécution, les tribulations et les difficultés qu'ils feront face dans le monde. Et au chapitre 16, il continue aussi sur les persécutions. Il leur donne un petit peu plus de détails sur ce que vont être ces persécutions. Il leur dit, « Vous serez chassés des synagogues. Ils chercheront à vous faire mourir. » Et ensuite, il parle aussi de l'activité du Saint-Esprit. Donc, il leur annonce pas que la mauvaise nouvelle des tribulations, il leur donne aussi l'aspect, cette espérance, que le fait qu'ils vont avoir le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit va les aider. Donc, il parle de l'activité du Saint-Esprit, c'est ce qu'on voit verset 13. Il vous conduira dans toute la vérité. Et enfin, il leur annonce la mort de façon très explicite. Au verset 28, il leur dit, « Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Et le chapitre 16 se termine par ce verset magnifique qui l'adresse aux disciples mais que nous pouvons aussi nous approprier dans des moments difficiles de notre vie. Verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. » J'ai vaincu le monde.
Amen.
J'ai vaincu le monde. Mon frère, ma soeur, ce soir, souviens-toi, Christ a vaincu le monde.
Amen.
Peu importe les tribulations, peu importe les difficultés, tu cherches un travail, tu es malade. Christ a vaincu le monde et tout ce qui va avec, toutes ces tribulations qui vont avec. Prends courage ce soir. Formidable, formidable message d'encouragement du Seigneur. Pour ses disciples, mais pour nous aussi. verset chapitre 17, c'est la prière sacerdotale. Après avoir donné tout, avoir fait tout ce discours, Christ prie, et c'est ce qu'on va regarder plus dans des en détail. Et chapitre 18, c'est le départ pour Gethsémani. Il s'en va vers la passion. Et ce qu'on peut dire, ce qu'on peut résumer des chapitres 14, 15, 16, c'est que Christ départ, prépare ses disciples, en fait. Il les prépare à ce qui va se passer, à ce qui les attend. Il leur donne les dernières recommandations. Mais imaginons une minute à quel point c'est puissant. Nous savons par la suite que ce que Christ leur a annoncé va se réaliser. Parce que nous avons lu le reste de la Bible, n'est-ce pas? On a vu la suite de l'histoire. Donc on se rend compte que Christ leur a dit la vérité. Mais imaginez un seul instant, à ce moment-là, les disciples n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Et Christ leur dit toutes ces choses-là. Frères et sœurs, c'est un puissant témoignage de se rendre compte que Christ dit la vérité. On le dit souvent, Christ dit la vérité, mais Christ dit la vérité. Il y a encore plein de choses qui sont écrites dans la Bible qui ne se sont pas encore réalisées. Nous avons cette confiance que ces choses-là vont se réaliser. Parce que nous voyons déjà qu'il leur a dit des choses qui se sont réalisées. Vous serez chassés des synagogues. On va chercher à vous faire mourir. Ça s'est réalisé. Et quand Christ, plus tard, nous le verrons, dit « Là où je suis, Seigneur, je veux que eux aussi y soient. » Il faut prendre très au sérieux ce que dit Christ. N'est-ce pas?
Amen.
Oui, on peut dire un amen. Alors, lisons ensemble le chapitre 17, donc la prière sacerdotale, qu'on peut lire dans Jean, chapitre 17, des versets 1 à 26. Chacun, vous lisez dans votre version, bien sûr, et je vous lis dans la mienne. Et lisons ensemble. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Verset 3 « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle-toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Verset 8. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, dans le monde, je les gardais dans ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16, ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Verset 17, consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Amen. Amen.
Amen.
Donc cette prière est souvent qualifiée de la prière sacerdotale. Elle présente en fait beaucoup de similitudes avec la prière que le grand prêtre des Juifs faisait le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et cette analogie, elle est aussi décrite dans la Bible, dans Hébreux, dans le livre de Hébreux au chapitre 5. Je vous lis, « Tout grand prêtre est pris parmi les hommes et il est établi en faveur des hommes pour leur relation avec Dieu. Il est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour ceux qui sont dans l'ignorance et qui s'égarent parce qu'il est lui aussi exposé à la faiblesse. » J'avance, verset 4. « De plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre. » On le ressent en y étant appelé par Dieu. Comme ce fut le cas pour Aaron, verset 5, il en est de même pour Christ. Alors, quelques éléments de rappel, mais à la fois qui vont nous permettre d'approfondir. Tout d'abord, la forme. La forme de cette prière. Et surtout le sens. Comme on l'a dit, c'est une prière sacerdotale. Et il est intéressant aussi de se pencher sur qu'est-ce que veut dire la prière en fait. Qu'est-ce que c'est? Quel en est le sens? En français, le sens premier de prière, c'est une requête. Et on est tous familiers en français à entendre souvent cela. Quand par exemple vous allez dans un espace public et que c'est écrit « prière de ne pas fumer ». Donc c'est une requête. Dans son premier sens. Et c'est intéressant de voir qu'en hébreu et en grec, le verbe est généralement traduit par le fait de s'approcher de Dieu. C'est très intéressant. Quand nous prions, nous nous approchons de Dieu. Je vous ferai grâce du grec, du mot en grec et du mot en hébreu. D'ailleurs, je ne l'ai même pas marqué là. De toutes les manières, mon grec et mon hébreu est très rouillé. Donc, et je ne suis pas sûr que vous allez vous retenir ça de toutes les façons. Mais intéressant de voir que quand on prie, on s'approche de Dieu. Alors, il y a différentes formes, bien sûr. Donc, il y a la prière, la requête. Et ici, on voit Jésus utilise la requête pour prier pour lui, qui est le fait d'invoquer Dieu, de demander des choses au Seigneur. Mais il y a d'autres formes. Et là, on voit une deuxième forme aussi dans la suite de la prière. C'est l'intercession. C'est le fait de prier pour d'autres. Et là encore, en hébreu et en grec, la traduction est très intéressante. La traduction du mot de l'intercession est « rencontrer à la place d'eux ». Donc l'intercesseur, c'est quelqu'un qui vient se placer entre Dieu et une autre personne, une tierce personne, pour laquelle il implore des faveurs de la part de Dieu. Et on a plein d'exemples dans la Bible. Hein. On voit Abraham qui intercède en faveur de certaines villes. On voit Moïse qui intercède pour le peuple. On voit Étienne au moment de sa lapidation qui intercède pour les gens qui sont en train de le lapider. Christ, pareil, qui prie pour ceux qui sont en train de le tuer, ou Paul qui prie sans cesse pour les églises. Et là, bien sûr, dans ce passage-là, Christ prie pour les disciples et il prie pour l'église, il prie pour les croyants, il prie pour nous. Maintenant, intéressons-nous au sujet. Quel est le sujet de sa prière? Alors, on voit qu'on peut partager le passage en trois parties. D'abord, il prie pour lui-même, pour sa personne. On le voit, verset 1, « Glorifie ton fils, mais afin qu'il te glorifie. » versets 6 à 19, il prie pour les apôtres. Et versets 20 à 26, il prie pour l'Église. Et donc pour les chrétiens, pour ceux qui croiront. Donc il prie pour nous. Et qu'est-ce qu'il demande ? Lorsqu'il prie pour les apôtres, il prie pour leur protection. Et on le voit au verset 11, « Garde-les ». Il prie pour leur protection, il prie aussi pour leur sanctification. Verset 16-17, « Sanctifie-les ». Et c'est un premier sujet qui est très intéressant. Et qui fait aussi écho à, dans Matthieu 6, qu'on voit la prière du Notre Père quand Christ enseigne aux disciples comment prier. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Certaines traductions disent du malin. Christ régulièrement prie pour que notre protection, pour nous garder de faire du mal ou de nous garder des attaques de l'adversaire. Et frères et sœurs, je pense que honnêtement, je ne suis pas sûr que nous prions très souvent pour ça. Souvent nous prions quand la tentation est là, ou souvent nous prions quand le péché est là, mais est-ce que nous anticipons ces situations dans la prière? Je vous donne un exemple, Luc 22. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Verset 31. Verset 32, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Simon, Pierre n'avait pas encore renié Christ, n'est-ce pas? Mais déjà, rien qu'avant, Christ priait déjà pour la foi de Pierre. Est-ce que nous avons ces sujets de prière où nous prions pour nos faiblesses, nous prions pour ne pas tomber en tentation? Est-ce que nous prions, nous apportons au Seigneur toutes nos difficultés? Est-ce que nous sommes conscients de tout cela? Et est-ce que nous les apportons au bas de la croix? Est-ce que nous intercédons pour cela? Non seulement pour nous, mais pour nos frères et sœurs? Parce que tout simplement, nous voyons que Christ prie pour ça. Il prie. Anticiper les tentations, prier pour notre foi, que notre foi tienne dans les difficultés, dans les souffrances. Et aussi la consécration, la sanctification. Est-ce que nous prions pour que le Seigneur nous mette à part? Très honnêtement, c'est une prière très difficile à faire. Seigneur, aide-moi à renoncer. Matthieu 16, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Seigneur, aide-moi à passer moins de temps sur Netflix et plus de temps dans ta parole. Seigneur, aide-moi à avoir soif de lire ta parole et à m'aider à tourner le regard des plaisirs du monde. » C'est une prière très compliquée, et honnêtement, même moi qui vous parle, je ne la fais pas très souvent cette prière. Seigneur, aide-moi à avoir envie de plus passer de temps avec toi. Seigneur, aide-moi à ne pas t'oublier. Aide-moi à avoir du temps à part chaque jour avec toi. À pouvoir faire une pause, une parenthèse dans ce monde qui va tellement vite. Mais à pouvoir appuyer sur pause et avoir tout un temps rien que pour toi. Seigneur, aide-moi à aller dans le désert et à chercher ta face. Très honnêtement, moi je ne fais pas souvent cette prière, frères et sœurs. Je ne sais pas pour vous et je ne parlerai pas pour vous, mais je peux prendre mon exemple que je ne fais pas souvent cette prière. Aide-moi, Seigneur, à me désintéresser des choses du monde, des choses matérielles. Moi, la dernière fois, j'ai fait une prière pour avoir une promotion. Ouais, je suis honnête. Donc, c'est un véritable défi. Mais pourtant, il n'y a pas d'autre chemin. L'autre sujet de prière intéressant et qui ressort, c'est de sa prière, c'est l'unité. Jésus prie pour l'unité de l'Église, pour l'unité des croyants. Il n'est pas très spécifique. On ne sait pas s'il prie pour l'Église, la rencontre, ou s'il prie pour l'Église des Églises du Luxembourg, ou les Églises à travers les siècles. Il ne spécifie pas. Et donc, à mon avis, ça englobe tout cela. Il prie pour nous tous. À travers le monde, à travers tous les temps. Donc il prie pour l'Église, à mon avis, l'unité de l'Église La Rencontre à Luxembourg, mais pour aussi les Églises à Luxembourg, les Églises dans la Grande Région, les Églises en Europe, les Églises en Afrique, les Églises en Asie, les Églises dans le monde, à travers tout le temps. On peut peut-être aussi remarquer que ce sujet de prière est important parce que derrière, il y a un principe élémentaire. On se souvient de ce principe quand Jésus, dans Marc 3, nous le rappelle au verset 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. On a besoin d'unité. On a besoin d'unité.
Amen.
Et on le voit dans Acte. Cela se matérialise dans Acte, on le souvient. Les premiers chrétiens partageaient leurs biens ensemble. Acte 2, verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Alors soyez sans crainte, hein, je ne vous demande pas de faire des virements ce soir. Vous inquiétez pas. Vous imaginez si aujourd'hui, votre salaire qui est viré sur votre compte, il était viré sur le compte de l'Église de la Rencontre. C'est ça, hein, que ça veut dire. Alors c'est un exemple de l'unité, comment ils vivaient l'unité. Et nous aussi, on a la dîme. Chacun donne un petit peu selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Et on met en commun. Et ça soutient l'Église. Donc l'unité, effectivement, c'est quelque chose qui se matérialise. Et c'est quelque chose que nous avons à entretenir, nous, chacun de nous. Éphésiens 4, rappelons-nous de Éphésiens 4, les mots de Paul. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Est-ce que cette unité, ça peut être aussi, par exemple, des fois, si un frère ou une sœur nous a fait une grief, ça peut aussi d'aller parler avec cette personne pour essayer de s'accorder, pour essayer de se réconcilier. Le verset dit « Efforcez-vous ». C'est un effort. C'est quelque chose qu'on doit faire continuellement. Et je pense que si Jésus prie pour l'unité, à plus forte raison, nous devons prier pour l'unité. Amen. Prier pour l'unité de la rencontre, prier pour l'unité des églises à Luxembourg. C'est un sujet qui doit occuper nos pensées et nos prières. Alors, à travers tout ce passage, même si Christ prie pour différentes personnes et navigue à travers différents sujets, il y a quand même un fil conducteur tout au long du passage, tout au long de cette prière. Il y a comme un sujet, un thème central. Et ce thème central, c'est la gloire de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Quand Christ demande « Glorifie ton Fils », c'est afin que le Fils glorifie le Père. Quand Christ prie pour les apôtres, « Garde-les, sanctifie-les », c'est parce que Christ voit dans les apôtres des instruments pour l'œuvre de Dieu, pour annoncer l'Évangile. Et quand Christ prie pour les croyants, moi, Jétro, nous, c'est parce qu'il voit que c'est l'œuvre de Dieu. L'Église est cette œuvre de Dieu. L'Église s'est fondée sur le témoignage des apôtres. Il prie pour nous parce que nous sommes l'œuvre de Dieu. Et donc, frères et sœurs, je pense que nous devons, à l'image de Jésus-Christ, dans nos prières, avoir toujours ce sujet, ce thème central, qui est l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu. Et nous devons toujours connecter notre vie, nos besoins, à l'œuvre de Dieu, à la gloire de Dieu. Tout le monde a sans doute vu déjà, peut-être, ou entendu parler de ce fameux dessin animé de Aladdin. Ce rêve bleu, voilà, on voit les
j'y connais ça, enfants.
Les grands enfants. Et dans Aladdin, il y a le génie. Et à chaque fois, Aladdin, il vient et il appelle le génie dans la lampe et le génie sort et il lui fait des vœux. Et je pense que nous devons faire attention, très très attention, nous en tant que chrétiens, à ne pas approcher le Seigneur un petit peu dans cet état d'esprit-là, de Aladdin quand il va voir le génie. C'est-à-dire venir avec notre longue liste. Alors voilà, j'ai tel problème, tel truc, telle chose, et ainsi de suite. Mais comment nous connectons ces difficultés? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ces difficultés, c'est pas ce que je dis. Je dis que comment nous connectons toutes ces choses à la gloire de Dieu, à l'œuvre de Dieu? Parce que, in fine, le problème, la prière, ce n'est pas à propos de nous, en fait. Ce n'est pas nous le sujet central de la prière. Le Notre Père, il ne démarre pas par désirer, voilà, ma vie, mes problèmes, mon œuvre. Non. Le Notre Père démarre par Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tout démarre par Dieu, continue avec Dieu et se termine avec Dieu. Mais c'est vrai que c'est difficile, n'est-ce pas? Si on est honnête, c'est difficile. On arrive, nos vies sont compliquées, on est préoccupé et il y a le poids de la souffrance. Mais il n'empêche que c'est quand même l'œuvre de Dieu et la gloire de Dieu. C'est pas nous le plus important. Et frères et sœurs, comment collectivement et personnellement arrivons-nous à prier comme Jésus? À certes demander des choses, à certes présenter des choses au Seigneur, mais à toujours avoir comme sujet central la gloire de Dieu et son œuvre. Comment on approche la prière, non pas seulement pour dire « Dieu bénis-moi, Dieu accorde-moi tel bienfait, Dieu fais-moi cette grâce », mais comment on arrive à connecter notre vie à son œuvre, à sa gloire, pour son nom. J'aimerais vous partager trois exemples. Premier exemple, c'est l'homme né aveugle. Un exemple que l'on peut lire dans Jean 9, des versets 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Verset 2. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, en fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Verset 7, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Souvent, on a des difficultés, on se dit « Ah, c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu as fait ci, c'est parce que tu as fait ça. » Oui, peut-être, ça peut être le cas, mais de toutes les manières, on est tous pécheurs. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est que les œuvres de Dieu soient manifestées. Deuxième exemple, Lazare. On peut lire dans Jean 11. Alors, on connaît tous l'histoire de Lazare. Je ne vais pas la lire en entier, mais lire certains versets et survoler pour illustrer le propos. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je répète, cette maladie n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu.
Amen.
Verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, j'avance dans le passage, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Bon, je précise, Marthe n'a pas entendu Jésus dire la phrase d'avant. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, verset 23, ton frère ressuscitera. Verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Sans doute quand il se dit ces paroles-là, Marthe croit, mais elle ne se doute pas de ce que Christ veut faire. Et Christ va lui montrer concrètement qu'est-ce que c'est que ce qu'il vient de dire. Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Il venait juste d'avoir la conversation. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et on sait qu'il va ressusciter Lazare. Il est ce Dieu qui est capable, dans une situation morte, de ramener la vie. Peu importe quelle est cette situation. Dernier exemple, Paul et son écharpe dans l'œil. 2 Corinthiens 12. À partir du verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, C'est alors que je suis fort. Je termine sur ce passage et j'aimerais vous attirer votre attention sur une chose importante. Sur ce dernier exemple, Paul n'a pas eu l'exaucement. Un premier exemple, Jésus guérit. Deuxième exemple, Lazare est ressuscité. Dans le troisième exemple, Paul demande, prie trois fois pour que l'écharpe soit enlevée. Elle n'est pas enlevée, l'écharpe. Est-ce que le plus important, c'est notre exaucement? Non, le plus important, c'est la gloire de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et c'est difficile d'admettre cela. C'est difficile d'admettre que cette écharpe, elle va quand même rester. Mais d'une certaine manière, ça ne serait pas difficile si on est attaché à la gloire de Dieu et à son œuvre. Qu'on arrive à dépasser juste la circonstance et la situation pénible. Et je ne dis pas que c'est simple. Je dis juste que c'est ce que Dieu nous invite à faire. Ma frère, ma sœur, est-ce qu'on peut vraiment ce soir se souvenir et repartir avec cette pensée en tête que lorsque nous prions, pensons aussi à nos difficultés, aux tentations, prions sans cesse pour cela, pour nos frères et sœurs, que le Seigneur nous garde, prions pour l'unité dans notre église, dans nos églises, prions pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, prions que chaque sujet, nous avons tout à l'heure eu les sujets de prière, mais prions que chacun de ces sujets soit des sujets qui nous amènent à glorifier Dieu, à voir l'œuvre de Dieu dans nos vies.